Pour bien introduire cette prédication, il me faudrait refaire l'introduction d'une prédication commise le 10 janvier dernier, à propos de ce qu'on appelle, dans le Nouveau Testament, la littérature joannique, c'est-à-dire l'évangile de Jean et les trois épîtres du même nom, en fait de la même école. Donc sur le site, vous la trouverez, cette fameuse introduction. C'est le problème du prédicateur, se battre en permanence contre l'éternel recommencement, la puissance de l'oubli et la variété des assemblées dominicales. Donc là, je vais ennuyer un peu ceux qui étaient là et qui se rappellent, et je vais frustrer ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça. Et je vais décevoir ceux qui, par ailleurs, connaissent bien le sujet, car je vais le caricaturer. Mais en même temps, cela me fait une accroche, certes bizarre, pour cette prédication. Mais disons rapidement, ces textes de Jean sont des réponses à une littérature et une idéologie appelée le gnosticisme, un mouvement de pensée et de pratique qui était populaire lors de la diffusion des premiers écrits des croyants au Christ. Cette sorte de philosophie se caractérisait par une injonction massive qui, en gros, invitait à quitter le monde, ce monde-ci, tellement corrompu et lugubre, puisqu'il aurait été créé par un dieu méchant. Ce dieu méchant est un démiurge ayant enfermé notre âme dans un corps ignoble. De ce corps, il faudrait, par palier, se détacher en s'élevant, toujours plus haut, toujours plus clair, pour rejoindre le véritable Dieu, celui qui est parfait, et gagner la timbale qui consiste à prendre un bain éternel dans sa lumière platonique. Beaucoup de croyants au Christ tombaient dans le panneau. Ils voyaient en Jésus, ou du moins dans une idée de Jésus, leur vecteur vers ce Dieu-là. Un ascenseur. Et ce n'était plus le Christ d'une nouvelle alliance biblique, ce n'était plus le fils de David, plus le nouvel Adam ou le nouveau Moïse, mais celui qui aurait inauguré le procédé ascensionnel. D'où donc en réaction cette première phrase de l'épître de Jean, notre texte du jour, « Mes enfants, n'aimons pas en parole, avec la langue, mais en œuvre et en vérité. » Ce qui signifie, quand on décode, c'est bien gentil la théorie gnostique de la fuite vers le monde idéal de la pureté. Les idées, il en faut certes, mais cet amour dont parle la Bible n'est pas une idée, c'est-à-dire un mot. Cet amour n'existe que lorsqu'il se pratique. Il n'est vrai que dans le fait, s'il se commet, s'il se fait, quand il s'incarne. Ce mot amour n'est réel que lorsqu'il est mis en œuvre. N'aimons pas en parole, mais en œuvre, dit l'auteur de ce passage. En œuvre, c'est-à-dire en grec, énergeia, force de l'action. Ce mot grec a donné en français évidemment énergie, mais aussi énergumène, qui voulait dire d'abord posséder du démon, c'est-à-dire quelqu'un, on le sait, qui a beaucoup d'énergie à dépenser. Donc, on n'aime pas en parole ou en idée, mais en action. Ça a l'air évident, Sauf que il semble qu'il faille le répéter assez souvent dans le Nouveau Testament. L'auteur de cette lettre ajoute à la nécessité de l'action un autre principe, la vérité. La vérité est un des thèmes des gnostiques chrétiens, et un certain Valentin a diffusé un livre qui s'appelait Évangile de la vérité. Je ne peux pas dire que l'auteur de cette lettre avait pu connaître ce livre, officiellement un peu moins ancien, mais on voit qu'il y a là aussi un combat autour de la vérité, et on se souvient que cette fois dans l'évangile de Jean, on trouve cette fameuse question sans réponse de Pilate à Jésus: Qu'est-ce que la vérité? Il y a débat donc. Et là aussi, il y a un code via la langue grecque. Vérité se dit aletheia, mot qui, décomposé, veut dire le non-oubli. Et donc, en particulier dans le contexte de notre passage, aletheia veut dire le non-oubli de la Torah et de ses commandements est nécessaire pour résister à la tentation d'un aller simple vers la lumière incorporelle, désincarnée, du Dieu parfait. N'aimons pas en parole avec la langue, mais en œuvre et en vérité. Cette affirmation simple et massive permettrait peut-être à l'auteur de répondre à une angoisse qu'il semble avoir repérée chez ses destinataires. Une angoisse à propos de la Torah, justement, et de sa kyrielle de commandements. Les destinataires de la lettre de Jean pourraient être sous l'effet de la culpabilité de ne pas arriver à accomplir la tâche de respecter la Torah. Un peu comme dans nos sociétés modernes, l'injonction de devoir réussir sa vie, injonction qui plonge beaucoup de gens dans l'anxiété ou dans une forme de folie. Pour les destinataires de la lettre de Jean, la solution gnostique semble plus simple. Elle permet de rejeter en bloc ce qui provient du Dieu méchant qui a créé un monde mauvais, notre corps pathétique et des commandements inapplicables. Et il leur dit à ses destinataires et à nous aussi ce matin finalement, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et c'est effectivement le palpitant de ce passage. C'est cette phrase que je voudrais vous laisser ce matin, comme un cadeau venu de la bonne nouvelle, qui, pour être véritablement bonne, doit accomplir en chacun de nous une œuvre. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle appelle, après nous avoir aidés à refuser l'oubli et à faire de la vérité en nous, aujourd'hui, la bonne nouvelle nous appelle simplement à nous pardonner. Non pas les uns aux autres, ça viendra en conséquence, mais déjà à nous-mêmes. Nous pardonner de ce que nous avons pu accomplir, que nous aurions préféré oublier, mais hélas, c'est impossible. Nous pardonner au lieu de vivre une vie de condamné par nous-mêmes. Nous pardonner à nous-mêmes, ce qui veut dire manifester le pardon de Dieu au lieu d'en parler sans y croire. Oh, certes, cet appel ne concerne pas tout le monde, et assurément certains des destinataires de ce passage, de cette lettre, n'ont rien à se reprocher. Mais beaucoup se sentent écartelés entre ce qu'ils auraient dû faire et qu'ils n'ont pas fait, ou dû ne pas faire et qu'ils ont fait. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Voilà ce qu'ils ont peut-être besoin d'entendre, que leur propre cœur n'est pas l'instance ultime et solitaire et sans appel de leur jugement. Leur propre cœur n'est pas Dieu. Et ensuite, on peut se remettre plus serein à faire ce qui doit être fait, mais cette fois, comme dit le texte, dans l'apaisement. Ce qui doit être fait, et c'est la conclusion de ce passage, nous aimer les uns les autres et garder les commandements, plutôt que de tenter de les oublier. Mais pour cela, il aura d'abord fallu agir, faire la vérité et nous pardonner à nous-mêmes. Amen.